Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du cinéma. Aujourd'hui, nous allons nous rendre en Guinée à la recherche d'un film mythique au Maroc où se déroulent de bien étranges événements. En France durant les vacances d'été et au Japon pour suivre un palpitant match de basketball. Aux Philippines avec des policiers corrompus, aux États-Unis pour écouter du jazz. Et en Côte d'Ivoire où nous pourrons être témoins des conséquences du réchauffement climatique. Mais pour le moment, voici un peu de musique. Dans cette émission, je mets un point d'honneur à évoquer les productions africaines, car il s'agit à mon sens de cinémas qui sont injustement mis de côté, pour ne pas dire méprisés. Ainsi, nous allons faire un petit tour en Guinée avec une coproduction entre la Guinée, la France, le Sénégal et l'Arabie Saoudite intitulée « Au cimetière de la pellicule ». Il s'agit du premier long métrage documentaire de Tierno Souleymane Diallo, cinéaste originaire de Guinée, qui a déjà réalisé plusieurs courts-métrages au cours de ses études, puis deux documentaires dont « Un homme pour ma famille » en 2015. Dans « Au cimetière de la pellicule », il part à la recherche du tout premier film réalisé par un cinéaste d'Afrique francophone noir. Mouramani, réalisé en France en 1953 par le réalisateur guinéen Mamadou Touré. Ce court-métrage, souvent cité dans les livres et articles évoquant l'histoire du cinéma africain, est sans doute le premier film du cinéma guinéen depuis 1940, mais il reste pourtant introuvable et personne ne semble l'avoir vu, ou tout du moins s'en souvenir. En parcourant la Guinée à la recherche de cette œuvre perdue, Tierno Souleymane Diallo interroge la mémoire du cinéma, la place qu'il occupe dans la société et la mémoire des hommes. Son périple à travers différentes villes de Guinée lui permet alors de voir comment est considéré le cinéma, de faire un état des lieux, des équipements, de la façon dont est aujourd'hui produit et diffusé le cinéma au pays du réalisateur Cheikh Doucouré et de l'écrivain Tierno Moné Nembo. L'intention est bonne et louable, mais se trouve gâchée par l'omniprésence du réalisateur Tierno Souleymane Diallo à l'écran. Ce parti pris, devenu malheureusement fréquent depuis les films de Michael Moore, finit par brouiller le message. Entre le réalisateur qui se met en avant et la quête d'une œuvre perdue, quel est le véritable sujet du film ? D'autant plus qu'il se balade avec une caméra à la main dont les images qu'il fait avec sont minoritaires dans le montage final. Plus problématique est ce passage durant lequel, dans un petit village, il met des armes factices entre les mains d'enfants et leur fait simuler l'attaque d'un village. Cette séquence, qui tombe comme un cheveu sur la soupe et dont la portée de l'action pédagogique reste mystérieuse, ne fait que pérenniser une image clichée de l'Afrique tout en y enfermant ses habitants. Malgré ses défauts, Au cimetière de la pellicule reste une réflexion intéressante sur la mémoire et la préservation du cinéma et par extension des hommes. Au cimetière de la pellicule de Tierno Souleymane Diallo sort dans les salles le 5 juillet. Il est également question de mémoire dans Le retour de Catherine Corsini, mais cette fois pour évoquer des histoires plus intimes, plus familiales. César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2022 pour le film précédent de Catherine Corsini, La Fracture, Aissatou Diallo Sagna incarne cette fois Khedija, une mère de deux filles qui travaille pour une famille parisienne aisée, qui lui propose de s'occuper des enfants le temps d'un été en Corse. Pour elle, c'est l'opportunité de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Alors que Khedija se débat avec ses souvenirs, les deux adolescentes se laissent aller à toutes les tentations estivales. Rencontres inattendues, 400 coups, premières expériences amoureuses, ce voyage sera l'occasion pour elles de découvrir une partie cachée de leur histoire. Catherine Corsini s'inspire de ses souvenirs pour raconter une histoire de deuil, de découvertes amoureuses et d'exclusion. Sous la forme d'un film d'été, de passage d'un état à l'autre, Le Retour raconte la difficulté à trouver sa place dans une société, dans une famille. Il s'agit aussi d'un film sur la nécessité du deuil, passage obligé pour continuer à se construire, à avancer. La mise en scène de Catherine Corsini s'avère plutôt pudique, aussi entre le drame et l'humour, surtout quand elle se lance dans la critique sociale à travers le portrait d'une famille riche et condescendante. Seulement, son regard n'est jamais complaisant, le ton se fait toujours juste, comme si elle s'en amusait plus de ses personnages que d'adopter un ton dédaigneux. En effet, Catherine Corsini porte une réelle attention à tous ses personnages, avec quelques beaux plans sur les visages, bénéficiant d'une très belle lumière. Elle évite aussi de tomber dans le sensationnel, en particulier quand elle filme les sentiments et la sensualité, avec beaucoup de pudeur. Les scènes intimes peuvent se révéler aussi drôles que touchantes, sans que la cinéaste fasse forcément appel à la musique pour suggérer de l'émotion, et quand il y en a, elle est particulièrement bien utilisée. Le retour est aussi l'occasion d'assister à de belles performances d'actrices, dont Aissatou Diallo Sagna, qui confirme ici son talent dans la peau d'une mère qui a du mal à trouver sa place, mais surtout Suzy Bemba et Esther Gohourou, qui jouent ses filles, chacune très différentes l'une de l'autre. Même si le scénario n'échappe pas à quelques ressorts cousus de fil blanc, Le Retour est une œuvre intelligente et sensible sur la découverte de l'amour et la réconciliation, ainsi que le portrait aimant de cette région qu'est la Corse.
Oh,
Catherine Corsini sort dans les salles le 12 juillet. Le 26 juillet sort un film d'animation japonais tiré d'une série de shonen, manga pour garçons, intitulé Slam Dunk. Pour les non-initiés comme moi, un slam dunk est au basketball un coup marqué dans lequel un joueur saute et force le ballon à travers le panier. Créé par Takehiko Inoue et publié dans Weekly Shonen Jump de 1990 à 1996, ce manga raconte l'évolution de joueurs de basketball dans leurs années lycée. La série s'est vendue à plus de 120 millions d'exemplaires au Japon et a eu un impact significatif puisque de nombreux jeunes garçons et filles se sont mis à jouer au basketball depuis. Avant de devenir un long métrage 26 ans après la fin de la série, le manga est d'abord adapté en série télévisée d'animation de 101 épisodes par le studio Toei Animation entre octobre 1993 et mars 1996. Quatre films d'animation sont également sortis entre 1994 et 1995. Aujourd'hui, Takehiko Inoue assume les rôles de créateur original, scénariste et réalisateur de The First Slam Dunk. Dans The First Slam Dunk, Sota est devenu le pilier de la famille Miyagi très jeune, suite à la mort de son père. Il était non seulement le soutien de son frère Ryota, de sa sœur Anna, de sa mère Kaoru, mais aussi un grand pêcheur. Cependant, il disparaît alors qu'il partait pêcher en mer, laissant un sentiment de deuil profond au sein de la famille. Incapable de combler le vide, Kaoru décide de quitter Okinawa. Bien qu'il souffre énormément de la mort de Sota, Ryota continue à jouer au basketball, le seul lien qui lui reste avec son frère. À présent, c'est le deuxième tour du tournoi Inter-High. Ryota, porté par le rêve de son défunt frère Sota, défie l'équipe la plus forte, le lycée Sano. En un peu plus de deux heures, The First Slam Dunk fait le pari de se dérouler presque entièrement durant une partie de basketball. Même si la narration est cependant découpée en flashback, éclairant alors les motivations des personnages ainsi que leur histoire, le récit se montre haletant, maintenant le spectateur en haleine. Il ne faut pas être forcément amateur de basketball pour apprécier le film de Takehiko Inoue, qui apparaît alors comme un film tendu où il est question de rivalité et de complicité, d'amitié et d'honneur, de dons et de dépassement de soi. Takehiko Inoue, pendant une bonne partie du métrage, fait oublier les tics inhérents aux films d'animation japonais en optant pour une mise en scène âpre, mais qui n'oublie pas d'être rythmée en adoptant une tonalité rock, même si de nombreux passages sont dénués de musique, rendant alors le film plus prenant et grave. Même s'il affirme ce point de vue, il ne peut s'empêcher dans le final de magnifier ses personnages et leurs actions à grand renfort de ralenti et de musique. La sécheresse du combat sportif laisse la place à des séquences plus emphatiques qui traduisent et accentuent la volonté de gagner des personnages. Même ceux qui ne s'intéressent pas au sport filmé pourront être captivés par The First Slam Dunk, un véritable film à suspense, à la fois un film de formation sur un adolescent qui doit faire le deuil de son grand frère, en transcendant sa douleur par l'effort physique et la volonté de gagner. We'll be right back. toujours à l'écoute du cinéma et The First Slam Dunk de Takehiko Inoue sort sur les écrans le 26 juillet. Je vais maintenant passer à quelques sorties du mois d'août, dont un premier long métrage qui vient d'Afrique du Nord, plus précisément du Maroc. Animalia est une coproduction entre la France et le Maroc réalisée par Sophia Alaoui. Sophia Alaoui est connue pour avoir remporté le César du meilleur court-métrage de fiction en 2001 avec « Qu'importe si les bêtes meurent ». Le film relate une invasion extraterrestre à Imilchil, un village berbère situé dans les montagnes de l'Atlas. Animalia s'impose comme une version plus longue, une relecture de son court-métrage dans laquelle elle prolonge certaines thématiques. D'ailleurs, le film se déroule en grande partie dans le même village, celui d'Imilchil. Ito, jeune marocaine d'origine modeste, s'est adaptée à l'opulence de la famille de son mari, chez qui elle vit et au sein de laquelle elle a bien du mal à trouver sa place. Alors qu'elle se réjouissait d'une journée de tranquillité sans sa belle famille, des événements surnaturels plongent le pays dans l'état d'urgence. Des phénomènes de plus en plus inquiétants suggèrent qu'une présence mystérieuse approche. Sophia Alaoui opte pour un fantastique tout en demi-teinte, avec peu d'effets spéciaux, avec une mise en scène qui repose essentiellement sur le hors-champ. De la science-fiction, le scénario glisse peu à peu vers quelque chose de plus métaphysique, où l'humain forme un tout avec le cosmos et les divers éléments qui l'entourent. Pour suggérer cela, Sophia Alaoui ancre son personnage principal, une jeune femme dont la grossesse est presque à terme, au milieu de l'Atlas marocain, où le paysage se dispute entre beauté et nature sauvage. Quoi de plus transcendant que de se retrouver seul au milieu de nulle part pour embrasser la connaissance de l'univers? Un film visuellement soigné, dont les tonalités différentes servent aussi une certaine critique sociale. Mais qui d'autre que Sophia Alaoui pour parler de son film Animalia? Et donc, pour parler d'Animalia, je suis avec Sophia Alaoui, sa réalisatrice. Bonjour Sophia Alaoui.
Bonjour.
Sophia Alaoui, pour votre premier long métrage Animalia, vous reprenez en fait l'argument de votre court métrage Qu'importe si les bêtes meurent. Pourquoi cela?
Bah, disons que court métrage, j'avais déjà commencé à. Il y avait des questions qui m'intéressaient, que je commençais à explorer dans le cours, mais j'avais envie de les déployer sur un format un peu plus long et aller un peu plus profondément. Dans ces thématiques-là. Donc voilà, c'était ça l'idée de ce long-métrage-là, c'était de continuer l'exploration du dogme dans la société marocaine à travers un événement surnaturel qui vient bouleverser mes personnages.
Le genre fantastique est un genre qui est quand même assez peu prisé sur le continent africain. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fantastique et quelles sont vos références?
Moi, ce qui m'intéresse dans le fantastique, c'est que on peut questionner nos sociétés de manière différente. C'est-à-dire que moi, je suis une cinéaste qui nourrit de références internationales et je me suis jamais sentie appartenir finalement à un cinéma que les Occidentaux attendent un petit peu souvent des cinéastes arabes, c'est-à-dire un cinéma social, réaliste. Parce que je pense qu'on peut parler de nos sociétés de manière différente. Moi, ce que je trouve dans le cinéma asiatique notamment, c'est qu'ils arrivent à concilier des sujets de société très forts, tout en étant universels. Et je pense que l'universalité, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Et donc, au niveau de vos influences, est-ce que vous en avez par rapport à ce genre au fantastique?
Voilà, il y a les films Mélancolia de Lars von Trier, Under the Skin de Jonathan Glazer. Tarkovsky, Stalker, voilà.
Parce que y a un côté très métaphysique dans votre film, et puis il y a une séquence qui, moi, me fait penser à la séquence complètement psychédélique de 2001 de Stanley Kubrick, par exemple.
Ouais, bah c'est sûr que. Alors c'était pas une référence quand j'ai écrit le film, mais c'est vrai que c'est des films qui posent des questions métaphysiques, tout comme les films de Tarkovsky, Solaris, tout ça. Et moi, j'adore ce genre de films-là, en effet.
Et il y a un courant qui s'appelle l'afrofuturisme. Est-ce que vous mettriez votre film dedans et quel rapport entretenez-vous avec ce courant?
Alors, j'ai du mal parce que je ne connais pas trop tous les films afrofuturistes. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a peut-être l'idée de se dire que le genre est aussi une manière de s'émanciper, comme ce que je disais, d'un certain cinéma, d'un certain regard que l'Occident a sur nous. Sur des attentes précises de comment comment finalement nos personnages, femmes, hommes, comment la société doit être représentée. Et finalement, à travers le prisme du genre, on s'émancipe un petit peu de ces attentes-là. Moi, je pense que si ça existe, c'est que finalement, tous ces pays-là qui ont eu en commun, parce que finalement, le Maroc, on dit c'est l'Afrique, mais finalement, on est quand même très différents en termes d'histoire avec un pays comme, je sais pas moi, le Bénin. On est très loin, très éloigné. Donc, du coup, quand on parle d'Afrique, moi, je pense que finalement, ce qui nous relie, c'est le rapport colonial qu'on a pu chacun entretenir avec les pays occidentaux qui nous ont colonisés. C'est surtout ça.
Non, et dans Qu'importe si les bêtes meurent et Animalia, on retrouve la ville d'Imilchil. Alors, pourquoi cette ville et a-t-elle une signification particulière pour vous?
Ben, Imilchil, c'est un peu comme une rencontre évidente. Je l'ai beaucoup cherché pour mon court-métrage. J'ai cherché cette ville idéale. Et quand je l'ai trouvée, voilà, ce village. Moi, j'aime beaucoup inscrire mon travail dans le vrai. Donc, c'est vrai que je connaissais, j'ai déjà dormi dans l'auberge qu'il y a dans mon film, je connaissais les cafés, je les avais déjà fréquentés en tant que personne. Donc, du coup, pour moi, j'avais envie d'inscrire mon film dans ce réalisme-là, de ces décors-là que j'avais déjà investis, en fait.
Et comment vous avez défini l'aspect esthétique du film avec votre directeur de la photo? Car il y a plusieurs aspects esthétiques, notamment par rapport à la ville d'Imilchil, et puis après quand on est à Ourikba.
En fait, l'idée c'était de se dire qu'on est au début du film, on est dans cette famille qui est déconnectée de son environnement, qui a un mode de pensée très rigide, très dogmatique. Donc la caméra, elle allait être, voilà, on est sur des plans très découpés, qui isolent les personnages, qui sont noyés dans des grands décors. Et puis qu'au fur et à mesure on se détache un petit peu de cette rigidité du cadre et de la narration pour aller vers quelque chose d'un peu plus organique. Donc c'était ça le discours là-dessus.
Vous êtes à l'écoute du cinéma avec Sophia Alaoui, réalisatrice de Animalia. Donc, qu'importe si les bêtes meurent, donc vous décrivez une invasion extraterrestre. Et là, avec Animalia, on a l'impression que vous allez ailleurs. Vous n'apportez déjà pas de réponse, pas beaucoup de réponses. Vous utilisez beaucoup le hors-champ. Et comment vous avez défini ce découpage, ce hors-champ? Est-ce que c'était une contrainte de la production ou c'est vraiment une volonté d'inscrire le film dans un genre particulier?
En fait, moi, je me suis jamais dit je vais faire un film de science-fiction. Et je trouve que les thématiques que j'avais envie de questionner dans le film amènent le surnaturel de manière naturelle. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi au Maroc, notamment en Chine, et c'est des pays qui sont très riches en termes de mythes, de légendes. Donc le rapport un petit peu au surnaturel, à l'invisible, fait partie de mon quotidien. Donc, pour moi, c'est totalement naturel, on va dire, de m'inscrire dans ce genre de film-là. Je n'ai pas l'impression de faire un film de science-fiction quand je fais Animalia, en fait.
Et d'ailleurs, le film touche des thématiques. Vous liez notamment le féminisme et l'écologie en opposition au patriarcat.
Alors, l'écologie face au patriarcat. Écoute, oui, on peut dire ça comme ça. Alors, c'est plus, c'est pas le patriarcat qui est vraiment. Enfin, c'est plus une pensée religieuse dogmatique qui a pour enfant le patriarcat. En effet, parce que cette religion-là, la manière dont les personnages croient en Dieu au début du film, Dieu, c'est une figure paternaliste, donc c'est évidemment un homme. On a l'impression, en fait, à entendre les gens, que c'est un homme, Dieu. C'est pas du tout une entité, c'est un homme qui est méchant, qui est gentil. Et il faut tout faire pour lui plaire, comme ça on a accès un petit peu au paradis après. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas de rapport, j'avais le sentiment que c'était un peu. Déjà, j'étais gênée avec cette figure masculine de Dieu. Et puis surtout, je me posais la question, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout organique. Je veux dire, si on respecte une religion de peur d'être puni, en quoi on est réellement spirituel, en fait? Elle est où la spiritualité là-dedans? Donc la religion aussi, elle a cette manière comme ça figée. Au Maroc, la religion, elle est pas comme en Europe, séparée du pouvoir. C'est-à-dire que la religion, c'est la société, c'est l'islam a organisé la société. Et les rôles de chacun dans la société, comment une femme elle doit être, comment un homme doit être. Après aussi, en vérité, je pense que chez les catholiques, chez les juifs, il y a des rôles comme ça qui ont été assignés. Qu'est-ce qu'une femme parfaite pour les chrétiens, qu'est-ce qu'un homme parfait pour les chrétiens. On est toujours dans des petits rôles, dans des petites cases. Et donc, le patriarcat, oui, évidemment. Mais le patriarcat, pour moi, c'est un enfant d'une pensée dogmatique. D'une pensée dogmatique, voilà.
Et les animaux, donc, le film s'appelle Animalia, ils ont un rôle assez particulier dans le film. Pourquoi les animaux en particulier?
Les animaux, en fait, pour moi, c'est une évidence parce que en fait, quand je voulais incarner cette présence extraterrestre, j'ai tout de suite pensé à une entité, à une énergie, en fait, qui pouvait unir tout ce qui était vivant sur notre planète. Aujourd'hui, on sait que les plantes, les arbres communiquent entre eux à travers un réseau de champignons. On sait que voilà, les animaux ont une sensibilité, et du coup, moi, l'idée de cette présence surnaturelle et cette énergie-là, c'était l'idée de relier tout ce qui était vivant, de nous relier humains, animaux, nature, finalement. Donc cette présence animale au début du film, elle est au début un chien, c'est toujours un petit un figurant dans un film. Alors qu'en fait, tous mes animaux sont habités de cette énergie surnaturelle, de cette présence extraterrestre-là. Donc c'est finalement plus que des figurants, c'est des personnages à travers lesquels on est également relié.
Donc vous avez créé Django Film, votre propre boîte votre propre maison de production, avec lesquelles vous avez produit Qu'importe si les bêtes meurent et donc Animalia. Est-ce que vous l'avez fait est-ce que vous l'avez créé particulièrement pour ces films-là, pour vous ancrer, pour pouvoir créer, produire des films ancrés dans le genre fantastique ou de science-fiction, ou pour d'autres raisons?
Moi, j'ai créé Animalia parce que j'ai créé Django parce qu'en fait, j'avais ce court-métrage-là qui était déjà dans un registre surnaturel, le court-métrage que j'ai fait qui avait gagné le César en 2021. Et à l'époque, personne ne voulait de ce scénario-là. Et puis, c'est vrai que même sur le court-métrage, ça prend souvent du temps à trouver des financements, etc., etc. Et moi, j'étais vraiment dans une énergie de fabriquer. Ok, j'ai envie de faire un geste, j'ai envie de tourner. J'aime pas trop attendre parce que ça s'affiche des fois le travail. Donc, j'ai monté cette société de production pour être libre, libre de le faire un peu comme je le voulais, comme entre documentaire, fiction. Avoir une approche documentaire justement par l'idée de travailler dans des décors réels sans toucher vraiment au décor avec des acteurs non professionnels tout en ayant à la fois une forte ambition esthétique, être avec des effets spéciaux, avec une ligne narrative construite. Donc ce mélange-là, je l'ai testé, on va dire, sur mon court-métrage. Et puis donc j'ai Bah, puisque le court-métrage a permis en fait de faire le long, j'ai continué tout naturellement à produire mes projets, mais en coproduction avec des partenaires français qui sont Margot Laurier, Ron Film et Toufik Hayadi et Chris Barral de Srap Film.
Et comptez-vous continuer dans le genre fantastique ou vous allez aborder d'autres genres?
Bah, ça dépend des thématiques. Moi, je ne suis pas fixe dans un genre, parce que justement, comme je te disais, ça dépend des thématiques. Là, je travaille sur mon prochain film qui s'intéresse à l'écologie. Donc, ça va être un drame et un écho à un drame intimiste, mais apocalyptique. Si je dis écho, c'est parce qu'en fait, il y a cette dimension météorologique, apocalyptique, qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus que jamais hyper important de se questionner sur notre avenir et notre ce rapport à la météo qui est là qui on a bien vu on est passé par une vague de chaleur terrible et ça nous fige on n'est pas maître de ça et souvent on a l'impression qu'on est maître de tout mais quand même la météo au quotidien en fait qui peut être vraiment très problématique Donc voilà, on met des clims quand il fait froid, enfin voilà. Et pourtant, on est petit face à cet environnement météorologique. Donc j'ai envie de travailler là-dessus.
Et toi, c'est qu'on va être riche. Tu te rends compte ou pas?
Oui.
On va pouvoir construire notre maison.
Ça c'est bien. Tentuku di krayenna fillo. Krayenna mintini arpi.
Fais-moi bien.
ولايني وردت نتيني
ما نقدروش نجيهم لارمي بلوك لي روت فير لو لاك نو ليس با ريبارتير جو سي با سكي سي باس جو في ابلي لو فوازان جو في لي دوماندي دو تا مير ريبكا
وقف وقف
ماذا تشري لي فلوسك ولا هاد الوراق راه والو
راه شري لي في خريبكا ماشي في حالي
Quel doit faire le
lit? C'est qui tire les jambes là?
Sont à Tunis, à Tchkar, bizarre. Où j'en ai mis ta gamme?
Est-ce que le dressing de la crèle mène à couleur?
Il y a ça, il y a les chèles de manne au commettant.
Vous êtes toujours à l'écoute du cinéma, c'était Sophia Alaoui, réalisatrice de Animalia, qui sort dans les salles le 9 août. Du Maroc, nous allons nous rendre aux Philippines avec Quand les vagues se retirent, un film policier de Lav Diaz. Le lieutenant Hermes Papuran, l'un des meilleurs enquêteurs des Philippines, se trouve dans un profond dilemme moral. En tant que membre des forces de l'ordre, il est le témoin privilégié de la campagne meurtrière anti-drogue que son institution mène avec dévouement. Les atrocités corrodent Hermès physiquement et spirituellement, lui causant une grave maladie de peau qui résulte de l'anxiété et de la culpabilité. Pour guérir, il devra affronter ses propres démons. Dans son fond, le film de Lav Diaz ressemble à un film de William Friedkin, avec sa réflexion métaphysique sur le mal, tandis que la forme fait plutôt penser à du Bellatar, un métissage qui ne paraît pas si étrange, le cinéma de Lav Diaz s'avérant sec et sans concession dans sa forme, mais avec une nette tendance à étirer le temps, le film faisant 3 heures. Ce qui, pour Lav Diaz, cinéaste ayant déjà une filmographie importante, relève plutôt du court-métrage, ses autres films pouvant durer de 5 heures jusqu'à 9 heures. Une image en noir et blanc, des plans-séquences montés en cut, sans aucune musique extra-diégétique, Quand les vagues se retirent s'impose comme une œuvre sombre et violente. Avec ce portrait sans concession de la police philippine, décrite comme corrompue, Lav Diaz nous convie à un voyage au cœur des ténèbres, mais avec un billet sans retour. Le budget est modeste, inversement proportionnel à l'ambition démesurée du film tourné en 16 mm, la texture de l'image rendant ainsi l'ambiance du film encore plus poisseuse, avec ses rues nocturnes baignées de brume, la moiteur de l'atmosphère en devenant presque palpable. Le film est traversé par un souffle presque mystique dans lequel se débattent les personnages qui, pris dans leur désir de vengeance ou d'absolution, se révèlent fiévreux, voués aux tourments existentiels les plus profonds. Car ce portrait de la société philippine est aussi, pour Lav Diaz, l'occasion d'explorer les tréfonds de l'âme humaine avec un constat des plus pessimistes. Tout cela fait de Quand les vagues se retirent une œuvre profondément nihiliste. Quand les vagues se retirent de Lav Diaz sort dans les salles le 16 août. Et vous êtes toujours à l'écoute du cinéma et je vais maintenant passer aux sorties Blu-ray et DVD du mois. Les éditions Rimini éditent le deuxième long métrage en tant que réalisateur de John Cassavetes, La balade des sans-espoirs, Too Late Blues en VO. Réalisé en 1961, le film se situe entre Shadows et Un enfant à temps et se présente bien différent dans sa forme par rapport aux autres films de John Cassavetes. Dans ses films, John Cassavetes donne la parole aux marginaux, aux exclus de la société, à ceux qui sont différents. Souvent, la forme qu'il adopte laisse une large part à une certaine improvisation, avec une caméra libre pour des films teintés d'un certain pessimisme. Si le titre français de La balade des sans-espoirs s'avère plutôt mensonger quant à la tonalité finale du film, car on devine que John Cassavetes a été bridé par la production, le cinéaste reste attaché au perdant. Ainsi, on suit la lente descente aux enfers d'un pianiste et compositeur, Ghost Wakefield. Il dirige un quintet de jazz qui peine à rencontrer le succès malgré le talent des musiciens. Ceux-ci doivent souvent se contenter de jouer dans des squares déserts ou pour des galas de charité. Lors d'une fête, Ghost rencontre Jess Polanski, une chanteuse accompagnée par Benny, leur impresario commun. Il décide de composer une chanson pour elle. La balade des sans-espoirs est autant une histoire d'amour que d'amitié, avec son lot de trahisons et de personnages antipathiques. On sent l'amour que porte John Cassavetes à ses personnages ainsi qu'à la musique. Il dépeint une industrie musicale à la fois hypocrite et intransigeante, mais qui s'intéresse avant tout à l'argent et au profit. Peut-on y voir ici une critique du système de production hollywoodien ? La très belle photographie de Lionel Lindon confère au film un côté film noir, avec ses cadres serrés qui captent les tourments des personnages. Rimini propose le film dans une belle copie avec un supplément éclairant sur sa production. Après les États-Unis des années 60, allons faire un petit tour en Afrique de nos jours. Quand on évoque le docu-fiction, on a tendance à penser à ces téléfilms qui remettent en scène des faits historiques sous une forme plus ou moins fictionnalisée, mais dont la texture de l'image met en évidence le côté factice et poussiéreux de la reconstitution. Avec Aya, qui n'a rien à voir avec la BD de Marguerite Aboué, Simon Koulibaly-Gillard donne un autre souffle au genre du docu-fiction avec un film dans lequel se conjuguent poésie et écologie. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s'effondrer lorsqu'elle apprend que son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend une décision. Là où est son île, elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique s'offre alors à elle, un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même. Le destin de la jeune Aya est celui qui attend de nombreux individus à travers le monde, celui de migrer des suites du réchauffement climatique. Le film arrive à faire cohabiter la comédie et la mélancolie entre une enfance qui s'en va et un monde adulte qui se profile. Simon Koulibaly-Gillard observe avec minutie le parcours d'Aya, ses joies, les déceptions et les peines de voir son monde s'écrouler. Il restitue avec précision la vie de ce petit village qui disparaît peu à peu sous les eaux. Pour autant, il fait le choix d'un travail de mise en scène où la poésie s'insinue au milieu de passages documentaires. Avec un son très travaillé et une image de toute beauté, entre réalité et scène plus onirique. Aya est un film contemplatif sur un monde qui change, les sacrifices nécessaires qu'il implique, mais aussi sur une jeune fille qui a du mal à quitter le monde de l'enfance.
Allô, Tandi. Aya Kamboni. Il s'est là.
Eh ben, nous pas taille. Nous pas la mon titi.
Aya là.
J'ai pu rencontrer Simon Koulibaly-Gillard à l'occasion de l'édition de 2022 du Festival Cinémonde et j'en ai profité pour lui demander en quoi Aya est un documentaire ou une fiction.
Oui, il y a une grosse hybridation dans ce film qui est liée en fait à son terrain d'existence. En fait, le film est fait sur une île qui disparaît sous la montée des eaux et ce territoire documentaire du réel, il est très fort et il apporte beaucoup de drames. Donc l'écriture fictionnelle qui se tisse autour est très liée en fait à ce problème qui a lieu dans un village et la fiction existe dans le fait que j'entends au quotidien beaucoup d'histoires de ce village, un jeune homme, un voisin, un grand-père qui me racontent des histoires que je me sens de devoir mettre dans le film parce qu'elle raconte beaucoup du drame qui s'opère dans cet endroit, qu'elle raconte beaucoup de l'ingéniosité des gens ou de leur attachement à leur culture. Et donc, petit à petit, j'essaye de mettre toutes ces histoires dans le film et pour faire ça, je choisis un personnage central, une héroïne qui s'appelle Aya et elle devient, on va dire, le porte-parole de tous les gens de ce village. Et donc voilà, le film aussi entre documentaire et fiction, parce que tout ce qu'on voit dans le film est véridique, mais il y a beaucoup de mise en scène, parce que ce sont des histoires qui ne sont pas nécessairement celles de l'héroïne, celles de l'héroïne dans son propre rôle, puisque l'héroïne vient elle-même du village, pardon. L'héroïne en fait interprète son propre rôle, mais elle interprète aussi de nombreuses autres personnes issues de sa communauté.
Comment vous avez trouvé cette actrice, qui n'est pas une actrice professionnelle, comment vous l'avez trouvée pour jouer ce personnage de Aya?
L'actrice d'Aya s'appelle Marie-Josée Denis Cocora. Et en fait, c'est une jeune fille qui m'est apparue. Elle a apparu dans mon plan. J'étais en train de tourner une autre scène assez documentaire d'hommes du village qui sont en action de pêche. Et pendant un mouvement de caméra, je suivais ces hommes et d'un seul coup, elle était dans le cadre. Et mon cadre s'est arrêté, j'ai stoppé le mouvement de caméra parce qu'elle me regardait, elle regardait l'objectif. Et j'ai senti dans sa posture, elle tenait son petit frère dans les bras, j'ai senti dans sa posture quelque chose de à la fois très mature et très fragile. Et Et il s'en est fallu de très peu de temps pour qu'en fait on se convainc l'un l'autre qu'on avait envie de, bah, de filmer et de se faire filmer. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Il y a des choses qui m'ont un peu interpellé quand j'ai regardé, quand j'ai vu le film. C'est par exemple la relation entre la mère et la fille. C'est quelque chose que je ne vois pas en Afrique, entre une adolescente, enfin une fille adolescente, et sa mère. Il y a une complicité, il y a un échange que je n'ai pas l'habitude de voir dans les relations mère-fille en Afrique.
C'est une société, la société en tout cas d'Afrique de l'Ouest, les sociétés d'Afrique de l'Ouest sont des sociétés très pudiques. Alors là, on a affaire aussi à une société plus chrétienne, donc un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus généreuse sur cette pudeur, mais quand même très difficile de voir une maman embrasser son enfant, lui faire des guilis, des caresses, pour lui témoigner son affection. Mais là, justement, en fait, je pense qu'il y a dans cette relation entre Aya et sa maman, il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié, de la camaraderie. Et effectivement, ça tient très très fort à la personnalité de Aya, enfin de Marie-Josée, l'actrice qui joue Aya, qui est une jeune femme extrêmement provocatrice, presque trop. C'est une chippie, pour rester poli. Et avec sa maman, elle agit comme ça. En fait, elle provoque sa mère au quotidien. Elle est toujours sur son dos, toujours en train de lui chercher des noises. Et c'est pas très commun. Mais moi, ça m'a beaucoup séduit. Ça m'a beaucoup séduit et ça permettait aussi dans le film de rendre compte d'une très grande intimité visible et de montrer vraiment ces deux femmes, ce couple de femmes, mère et fille, qui font face à des problèmes d'une grande dimension, donc un océan qui dévaste leur île et qui dévaste leur maison. Et en fait, avec leur sourire, avec leur solidarité, elles arrivent à dépasser tout ça.
Combien de temps de tournage pour ce film ? Parce qu'on voit un cimetière qui est... Il délocalise un cimetière, littéralement, et on le voit disparaître sous les eaux. Alors, ça a pris combien de temps de tournage ?
C'est un film qui est tourné sur une économie assez légère et dans une équipe très légère. C'est-à-dire que je tourne seul, je m'occupe de ma caméra, mes micros, la mise en scène, costumes, coiffure, etc. Et je suis accompagné d'un assistant local, qui est un jeune homme du village, qui fait l'interprétation, la régie, etc. Donc on est deux à fabriquer ce film. En étant deux à fabriquer ce film, on peut se permettre de tourner sur une très longue durée. Et donc, ça nous a pris 9 mois de tournage pour faire ce film. 9 mois de tournage étalés sur 1 an et demi. Donc, c'est une confiance qui se crée, une confiance qui se tisse et qui donne la possibilité de faire un film à cet endroit-là. Il n'y a pas d'autre façon de faire un film à cet endroit-là que de prendre le temps de le faire.
C'est un film qui est écrit, hein, qui est entre le documentaire et la fiction. Est-ce qu'il y a des abus ? Est-ce qu'il y a eu des accidents ? Je tourne des accidents, pas des accidents avec des blessés, hein, des accidents de tournage, des choses qui sont apparues devant la caméra comme ça.
Dans chaque plan. Il y a des accidents de tournage à chaque plan, étant donné qu'on n'est que deux. On ne peut pas bloquer une rue, on ne peut pas choisir le costume de tout le monde. Et si quelqu'un décide, un passant, décide de s'emparer d'une scène, il s'assoit devant la caméra et il s'empare de la scène. Et on ne peut rien y faire. Et c'est tant mieux. Parfois, c'est... problématique et la scène est fichue, et parfois il y a un accident et cet accident on le garde au montage. Et moi je plaide pour ça, je plaide pour un cinéma de l'accident, un cinéma du hasard, un cinéma de l'intuition, parce que à trop vouloir appliquer un scénario, à trop vouloir chercher la fin d'un film, à trop vouloir connaître la fin d'un film, ben on peut passer à côté de son film. C'est la beauté d'ailleurs du documentaire, c'est de ne pas dicter la fin. On se fait surprendre généralement quand on est documentariste par ce que notre film raconte. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on se dit « mince, notre film racontait telle chose et je m'en étais pas aperçu ». Dans la fiction, on connaît la fin et on par tous les moyens possibles et imaginables, on va chercher d'y arriver. Et donc, c'est deux façons différentes de concevoir le cinéma. Elles sont pas antinomiques, mais elles peuvent se compléter.
Au niveau de la mise en scène sonore, on entend sans arrêt le ressac de la mer. Est-ce qu'on l'entend vraiment sur l'île ou est-ce que c'est un ajout de pure mise en scène?
Alors oui et non, on l'entend énormément pendant les parties silencieuses de la vie, c'est-à-dire la nuit. La nuit, quand on est couché sur le sable, généralement personne n'utilise de matelas sur cette île, on pose une natte sur le sable et on dort donc l'oreille collée sur le sable et on entend un vrombissement extrêmement sourd de ce shore break, donc cette vague qui vient se casser rythmiquement sur le littoral. Et ça pénètre le corps intégralement, c'est pas seulement l'oreille, ça, on le sent vibrer dans les orteils, toutes les parties du corps qui sont en contact avec cette natte, avec ce sol, vibrent. Donc oui, il y a quelque chose quand même de l'ordre du quotidien. Ça m'est arrivé tellement de fois, en beau milieu de la journée, qu'il y a une vague plus grosse que les autres, et d'un seul coup, je pense entendre l'orage. Et je me retourne et je me dis, il va faire mauvais, il fait grand bleu, il n'y a pas un nuage, mais c'est une vague plus puissante qui est venue, qui s'est écrasée sur le littoral et qui, dans un vrombissement très très sourd, fait penser à l'orage. Donc il y a cette présence, en tout cas, continue. Des fois, on l'oublie, mais il y a cette présence qui est toujours là, qui se rappelle toujours à nous.
C'était Simon Koulibaly-Gillard, le réalisateur de Aya. Aya qui est sorti en DVD chez la 25e heure. Et en bonus, vous pourrez retrouver une interview de Simon Koulibaly-Gillard qui revient sur la jeunesse du film et le contexte dans lequel il a été réalisé. C'est tout pour ce mois-ci et vous étiez à l'écoute du cinéma avec Thomas Roland. Si vous avez des suggestions ou des remarques, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante loupgaroupicard en un seul mot, @gmail.com. Je vous souhaite de bonnes séances et vous dis à la prochaine.